Je ne parlais pas du remplacement de Humbert, mais de ce qu'il convient de faire pour Andreas Saint-Loup, insista de Valois qui n'avait pas l'intention de laisser le chambellan s'écarter habilement du sujet. S'il a quitté la France, comme nous le croyons, nous ne pouvons plus faire grand-chose. Pardon, rétorqua de Valois en se tournant vers le fils du roi. Mais s'il a passé les Pyrénées, il est en Navarre, où, cher neveu, vous avez tout pouvoir. Le jeune Louis, qui n'était pas encore aguerri au jeu de la politique, adressa à son père un regard interrogatif. Philippe le Bel, qui était resté silencieux jusque-là, se résolut enfin à parler. « Mon fils, verrait-il là le motif de retourner lui-même dans ce royaume où il ne mit les pieds qu'au seul jour de son couronnement ?» Plutôt que de laisser son neveu se sortir du sarcasme que lui avait adressé son père, Charles de Valois répondit prestement à sa place. « La chose ne nécessite sans doute pas qu'un roi se déplace, mais je pourrais, moi, aller en Navarre et obtenir du gouverneur Alphonse de Rouvroy qu'il s'occupe de cette affaire et veiller à ce qu'elle aille jusqu'à son terme. « Auriez-vous de nouvelles envies de voyage, mon frère ?» se moqua Philippe le Bel. « Ai-je déjà déçu Sa Majesté lors des missions que je fis en son nom ? Quand je me rendis en Hainaut, quand je me rendis par deux fois en Flandre, ou bien quand je pris avec mon neveu Louis, justement, la ville de Lyon rebellée. Non, mon frère, vous ne m'avez jamais déçu, et les nombreuses terres et propriétés que je vous ai offertes en retour sont les témoins de ma gratitude, mais pourquoi vous envoyez-vous en Navarre alors qu'un simple messager suffirait ? Après une ordonnance royale adressée à tous les baillis et prévôts de France, Sa Majesté envoya Humbert aux trousses de Saint-Loup, et cela ne suffit pas. Il semble que mettre le sort de cet apothicaire entre les mains d'un simple messager, ou bien même entre celles du gouverneur de Navarre, soit fort hasardeux. Et s'il faut mettre fin, une bonne fois pour toutes, à cette sombre histoire, je veux bien m'en charger moi-même. Qui ne vous décevrait point ? Philippe le Bel se tourna vers Marigny, qui comme lui sans doute devinait que derrière le dévouement zélé du comte se cachaient quelques desseins plus obscurs. Mais le chambellan resta silencieux, et le roi estima qu'écarter son frère de la capitale n'était peut-être pas une si mauvaise idée. Après tout, ses chances de retrouver l'apothicaire étaient à peu près nulles, et pendant ce temps-là au moins, il ne se mêlerait pas des affaires parisiennes. Le silence de Marigny indiquait sans doute qu'il était du même avis que le roi. « Qu'il en soit donc ainsi, Charles. Je vous laisse la charge de cette affaire. Puissiez-vous faire arrêter ce Saint-Loup et le ramener jusqu'ici afin qu'il soit jugé pour tous ses odieux crimes ?» Quand le conseil fut fini et que Charles de Valois fut rentré en son hôtel de Nesle, il demanda à ses gens de préparer son départ le jour même pour le royaume de Navarre. Et sur son visage se pouvait lire une jubilatoire satisfaction, car sur le chemin qu'il allait prendre se trouvait la ville d'Étampes.
Chapitre 112. La porte vola en éclats sous le violent coup de pied du mallard. Et alors sa grande et sombre silhouette entra dans la maison comme une terrible bourrasque de vent, et là-dedans sa colère s'abattit comme l'un des sept fléaux de l'Apocalypse. C'était Suriane. Et de son épée il fracassa tout ce qui était sur son passage, et on eût dit le démon Asmodée, soufflardant d'un dieu mauvais, arrachant le toit des demeures pour y pénétrer. Et après lui vint Suriel, son frère, tout enveloppé dans son calme glacial et solennel, tel un général suivant l'avant-garde. La vieille femme qui toute sa vie durant avait été au service de Juan Hernandez Manao, fit irruption dans la pièce non pas terrifiée comme elle aurait dû l'être devant tant de fureur, mais toute courroucée et le regard plein de défis. Suriel avança parmi les débris que la fougue de son frère avait éparpillés à travers toute la pièce, et dressa son grand et large corps devant la petite femme. « Où est ton maître ? » gronda-t-il d'une voix qui eût fait trembler les murs de Jéricho.
« Il n'est plus là, » répondit-elle sans même baisser les yeux.
« Tu mens ! »
hurla le malard en s'approchant encore.